Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Là, on assiste vraiment à un jeu de poker menteur hein, entre le gouvernement, la grande distribution, les industriels de l'alimentaire. Qui dit vrai, on ne sait plus trop. En tout cas, côté Bercy, on est prêt à dégainer une arme secrète, une taxe sur les industriels de l'agroalimentaire. Thomas Asportas, vous avez enquêté à Bercy.
Elle concernerait jusqu'à 75 grands groupes de l'agroalimentaire et serait mise en place via le prochain budget. Jusqu'ici, ces industriels ne voyaient pas autre chose qu'un coup de pression politique derrière la menace de taxation de Bruno Le Maire. Mais les services du ministre nous disent qu'ils sont très sérieux et qu'ils pourraient très facilement mettre cette taxe en place, tout simplement parce qu'ils l'ont déjà fait et dans d'autres secteurs. Tout récemment, ce sont par exemple les superprofits des énergéticiens qui ont été taxés spécifiquement, ou encore les activités de raffinage de Total en France. Bercy rappelle aussi que depuis 2019, la France taxe les grandes entreprises du numérique, une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires réalisé en France par une quarantaine d'entreprises et qui devrait rapporter cette année près de 700 millions d'euros. Et puis en 2017, dans le premier budget de Bruno Le Maire, la France avait mis en place une surtaxe exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés pour les 320 entreprises françaises qui faisaient plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires pour boucler le budget après l'annulation par le Conseil constitutionnel de la taxe à 3% sur les dividendes. Bref, une taxe sur mesure. On sait faire, nous fait-on comprendre, dans l'entourage du ministre.
Une taxe qui viendrait donc grignoter les marges records dont on accuse les industriels de l'agroalimentaire. Mais par exemple, chez les cafés Lavazza, les marges indécentes, on ne connaît pas. Impossible de les raboter davantage, nous disait hier soir Giuseppe Lavazza dans l'interview d'Edwige Chevrillon.
C'est impossible parce que sinon nous mettons à risque la tenue financière de l'entreprise. Donc nous sommes vraiment en tension avec les coûts et nous espérons que la situation va améliorer dans le 2024. Mais pour l'instant, nous avons déjà compensé beaucoup avec notre marge et nous sommes en limite qui est impossible de passer.
C'est sans doute ce que va nous dire aussi dans un quart d'heure hein, Jean-Philippe André, le président de l'Association nationale des industries agroalimentaires. Les marges, il n'y en a pas. On va le challenger sur ce sujet.
L'inflation a entamé sa décrue. On le doit surtout à la baisse des prix de l'énergie, évidemment. Mais l'INSEE nous dit que dans l'alimentaire, les signaux sont aussi au vert. Un mouvement qu'on constate partout en Europe. Thomas Schnell.
Oui, tout à fait. En mai, en France, on est passé de 5,9 à 5,1% de taux d'inflation au rythme annuel. On le doit surtout à la baisse des prix de l'énergie, ça frémit un peu aussi du côté des produits alimentaires. Le ralentissement est net également en Italie, le pays le plus exposé à l'inflation, 7,6% au mois de mai contre 8,2% au mois d'avril, alors que le pays avait connu des sommets avec une inflation jusqu'à 8,7%. Ralentissement également en Allemagne, 6,1% contre 7,2% en avril. Belgique, 5,2% au mois de mai contre 5,6% en avril. Le Portugal enregistre le plus faible recul à 4% de taux d'inflation au mois de mai, alors qu'il était de 5,7% en avril. Et l'Espagne, 3,2% contre 4,1%. Le pic de l'inflation est probablement derrière nous, estime le gouverneur de la Banque centrale. On a bien une tendance globale à la baisse dans toutes les économies de l'Union européenne depuis septembre-octobre 2022. C'est d'ailleurs conforme à ce que prévoyait la Banque de France en mars. La pression inflationniste commence bien à décroître sur tous les pays.
On a l'impression quand même, Thomas, que c'est allé plus vite aux États-Unis qu'en Europe, non ?
Oui, effectivement, il ne faut pas crier victoire trop vite, prévient le vice-président de la Banque centrale européenne, avec un taux moyen d'inflation dans la zone euro à 7% au mois d'avril. On voit que, eh bien, en moyenne, ça stagne ces derniers mois, porté par les prix, en particulier en Europe, de l'alimentaire, de l'alcool, du tabac, mais également le prix des services, alors qu'aux États-Unis, eh bien là, l'inflation décélère plus rapidement, grâce notamment d'abord à l'action de la Fed, même si, et il ne faut pas oublier que les États-Unis partent de moins loin que nous, là où le jeu des hausses des cours n'a pas eu la même virulence outre-Atlantique par rapport à l'Europe.
Merci Thomas Schnell. La Chambre des représentants a adopté cette nuit la loi suspendant le plafond de la dette jusqu'en 2025, conformément à l'accord arraché le week-end dernier avec le chef de file des Républicains. Le vote a été serré. Kevin McCarthy n'ayant pas été suivi par tous les élus de son camp. Ce sont les démocrates dont certains voulaient voter contre pour protester contre le gel des budgets qui ont finalement voté pour compenser.
L'Union européenne et les États-Unis annoncent un projet de code de conduite commun sur l'intelligence artificielle. On en parlait beaucoup hier. La commissaire à la concurrence, Margaret Vestager, et Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, veulent ouvrir ce code à tous les pays partageant les mêmes idées et évidemment évidemment l'imposer aux géants du numérique. On écoute Margrethe Vestager.
Dans les prochaines semaines, nous allons proposer un code de conduite sur l'intelligence artificielle en prenant en compte les avis d'industriels, d'entités indépendantes. L'idée est d'avoir très très bientôt une proposition finale sur laquelle les entreprises du secteur pourront s'engager volontairement.
Le Parlement européen vote ce matin le rapport final de la Commission sur les ingérences étrangères et le Qatar Gate. 6 mois après le scandale, les députés européens espèrent redorer l'image de l'institution à Bruxelles. Correspondance de Mathieu Fauroux.
Oui, avec ce texte, le Parlement européen veut signaler la fin de la naïveté à Bruxelles. Le Qatar Gate est passé par là, un énorme scandale impliquant un pays du Golfe, avec des possibles faits de corruption visant des députés européens. Après 3 ans d'enquête, la commission parlementaire présidée par Raphaël Glucksmann veut faire le ménage. Terminer les groupes d'amitié parlementaires informels avec des dictatures, terminer aussi l'accès du Parlement à des diplomates russes ou chinois. Le maître mot, c'est désormais la transparence. Chaque rapporteur de texte devrait publier la liste des lobbyistes rencontrés dans le cadre de ses activités. Les députés européens veulent aussi mieux encadrer les fameuses revolving doors qui permettent parfois aux élus sortants d'aller offrir leurs services à des entreprises étrangères à la fin de leur mandat, tout en conservant leur accès au Parlement. Enfin, à 1 an des élections européennes, les députés appellent à surveiller de très près les financements des partis européens pour prévenir en particulier les ingérences du Kremlin.
Allez, on va parler beaucoup automobile aussi ce matin. D'abord parce qu'on a eu cette nuit les immatriculations de voitures neuves en France pour le mois de mai. Et ça monte, hein, 14,7% de hausse. Sur les 5 premiers mois, c'est quand même plus 16,3%. C'est bien, d'autant plus qu'en mai, il y avait 2 jours ouvrés de moins que l'an dernier. Sur ce marché automobile, on commentera évidemment avec le patron de BMW France, dont le groupe gagne un petit 3,9%, et qui fait de la résistance sur l'électrique. Ils veulent pas aller aussi vite que d'autres groupes. On en parlera avec lui à 8h15.
Le gaz synthétique, c'est le nouvel investissement de Total Energy. Ils ont annoncé un partenariat aux États-Unis avec une société belge. C'était hier matin. Il s'agit de produire du gaz à partir d'hydrogène pour décarboner les industries lourdes. Jean-Baptiste Huette.
Le e-gaz ou gaz synthétique a exactement les mêmes propriétés que le gaz naturel classique, sauf qu'il est plus vertueux pour l'environnement. Au lieu d'aller le chercher dans les sous-sols, on le fabrique avec d'un côté de l'hydrogène et de l'autre du CO2. Total Energy va donc produire aux États-Unis de l'hydrogène vert avec un électrolyseur alimenté par de l'énergie éolienne. Cet hydrogène sera ensuite combiné avec du CO2. Le gaz peut ensuite être transporté en pipeline ou liquéfié. Total Energy envisage une production de 200 000 tonnes par an. Avantage, ce gaz utilise les infrastructures existantes et les clients finaux comme les aciéries ou les usines pharmaceutiques n'ont aucune modification à faire dans leurs installations. Cette annonce de Total participe d'un mouvement de fond mondial qui est en cours dans le domaine des gaz et plus largement des carburants de synthèse qui sont présentés de plus en plus comme la solution immédiate pour décarboner les industries et les transports.
Crédit Suisse enregistre entre 150 et 200 départs par semaine, selon l'agence de presse économique suisse AWP. De nombreux employés semblent prendre les devants avant même de recevoir la lettre de licenciement. Vous savez que Crédit Suisse et UBS comptent à L2 37 000 salariés en Suisse, 120 000 dans le monde et que les doublons, forcément, y sont nombreux.
Un peu de luxe pour terminer, puisqu'en ce moment, la maison Chanel a installé un jardin éphémère juste derrière le musée de l'Orangerie à Paris. Chanel y célèbre la fleur d'oranger, une filière cruciale pour ses parfums que la maison s'évertue à préserver. Eva Jacot.
La fleur d'oranger est l'un des composants essentiels du mythique Chanel numéro 5. Il y a quelques années, la filière était sur le point de disparaître du sol français. Hors de question pour Chanel, qui s'est alors rapprochée de la famille Mulle il y a 5 ans pour revaloriser la production de Bigaradier.
On travaille avec une soixantaine de producteurs regroupés au travers d'une coopérative, la coopérative Nérolium, qui sont des personnes qui aujourd'hui avancent en âge. Et il y avait cette urgence donc, de transmission et de prise de relais. Et donc il fallait qu'on accompagne en pilotant cette filière, en formant et en soutenant donc la formation de nouveaux agriculteurs.
Cécile Mulle a coordonné le projet pour Chanel, la plantation de 700 bigaradiers dont les fleurs d'oranger sont cultivées à la main en avril et en mai. Pour le parfumeur de Chanel, Olivier Polch, c'est essentiel de pouvoir maîtriser la chaîne de la terre jusqu'au flacon.
La chance que l'on a chez Chanel, c'est qu'on est créateur et producteur de parfums, c'est-à-dire qu'on a la maîtrise de la fleur au flacon, et ce qui nous permet de préserver une palette olfactive très vaste et unique.
Créé en 1921, Chanel numéro 5 reste aujourd'hui l'un des parfums les plus vendus au monde.
Et toute l'actualité du luxe est à retrouver sur Iconique Business, la verticale luxe de bfmbusiness.com.